De nouveau en compagnie du maire Jean-Claude Tournant qui évoque les anciens lieux de sociabilité et les loisirs d'aujourd'hui.
Avez-vous eu des cafés dans ce village? Je pense que oui.
Ah oui, oui, dans le temps, il y en avait, monsieur Dutille avait un café. Et dans le temps, il y en avait un là aussi où il y a le cabinet des infirmières qui appartenait à mes grands-parents. Et il y en a eu deux, et il y avait, à l'époque, il y avait deux épiceries aussi, mes grands-parents et madame Huc.
Le dernier café a fermé quand?
C'est M. Dutille, il a fermé. Oula. Nathalie. Je ne me rappelle plus. Il y a à peu près. Bon, je l'ai remplacé en 2001, aux alentours de 2004-2005. Voilà. Le café Dutille, il a fermé en quelle année? 2004-2005, à peu près, non? Oui. En même temps que le restaurant de la Guimbarde.
En même temps que le restaurant, oui.
Oui.
C'était au début, oui, au début.
Oui, qui sont partis, donc son fils est parti là-bas, ils ont acheté là-bas.
En Doufiel,
oui, 2004-2005, pour là à peu près. Donc c'est regrettable, parce que c'est vrai qu'à Cazaux, le père, M. Dutille, qui était donc l'ancien maire que j'ai remplacé, avait la traditionnelle la poule au pot, et qui faisait le tour. Beaucoup de gens venaient de Toulouse pour venir manger la poule au pot ici à Cazaux, à la Guimbarde.
Donc c'était un village assez dynamique et vivant, visiblement.
Ah ben oui, très vivant, oui. Très vivant, à un moment donné, oui. Mais bon, après, petit à petit, bon, ben, l'épicerie a fermé, ben, compte tenu de l'âge de madame Huc, donc M. Dutille, bon, malheureusement, il est décédé aussi depuis, donc voilà, le restaurant a fermé. Puis il reste que le haut village, que le mécano, M. Baron.
Parlons un peu des fêtes locales, des activités... organisé par la municipalité ou peut-être par un comité des fêtes, un foyer rural, parlez-moi de tout cela.
Alors, il était une époque où Cazaux avait une foire au matériel agricole, que nous avions continué après, nous, après 2001, pendant 4-5 ans. Puis bon, elle est tombée à l'eau parce qu'il fallait beaucoup de travail et beaucoup de bénévoles. Et puis finalement, bon, hein, les bénévoles... même si la population augmente, les gens ont de moins en moins le temps de venir de s'occuper. Donc aujourd'hui, il y a simplement le comité des fêtes qui réalise quelques petites festivités, bon, notamment la fête locale qui est pour la Saint-Jean. Et après, bon, des petits, par exemple, samedi soir, un concert de rock. Que ce sont des habitants, donc il y en a un qui est conseiller municipal, qui fait partie de ce groupe et qui anime une soirée. Bon, ils jouent là à la salle des fêtes.
Je suis garagiste depuis décembre 78.
Thierry Baron.
J'ai pris la succession de mon père. Je fais la vente, réparation de voitures et un peu de mécanique agricole.
Vous êtes le dernier commerce de ce village.
Oui, je suis tout seul.
Et ça représente quoi pour vous?
Ben, ça représente la mort des petites communes et des petits artisans et des petits commerçants.
Voilà. Vous avez encore beaucoup de clients qui viennent faire réparer leurs véhicules chez vous?
Oui, mais ils viennent de loin. C'est une clientèle attitrée. Les gens de la commune, je n'en ai pas beaucoup. Et surtout les nouveaux arrivants, ils ne font pas travailler les petits commerçants.
Alors, sont des véhicules particuliers ou vous travaillez aussi sur des engins agricoles?
Je travaille sur des engins agricoles aussi.
Donc là, les agriculteurs, ils doivent quand même venir vous voir?
Oui, mais maintenant... ça a évolué aussi. Alors, c'est tout électronique, c'est tout sophistiqué. Il faut être équipé, quoi.
Et ce garage, vous comptez le conserver jusqu'à quand?
Ben, je ne sais pas, parce que moi, j'ai 58 ans. Dès que je peux arrêter, j'arrête.
Il y a peut-être une succession?
Non, j'ai qu'un fils et il rentre à l'RDF à Toulouse, travaille. Alors, il est plus tranquille que moi.
Mais alors, ça va, si un jour vous fermez, ça va être une perte quand, de plus. Le village va être mort pour vous.
Ah ben oui, déjà qu'avec la fermeture de l'école, de l'épicerie et du restaurant qu'on avait là, c'est mort. Le village est mort.
Alors comment faire pour le faire revivre ce village?
C'est assez compliqué parce que bon, c'est des villages dortoirs. Les gens ils viennent et puis ils vont travailler à Toulouse, puis le week-end ils se mêlent pas à la vie du village ni rien quoi. Voilà.
Vous n'avez pas une petite idée pour le faire vivre?
Cazaux est une commune compliquée aussi, hein, parce que ça, il y a toujours eu une mésentente. Alors, c'est compliqué. Faire vivre le village, là, c'est compliqué.
Donc, nous avons choisi de nous installer à Cazaux parce que ben, notre souhait, c'était de s'installer déjà à la campagne.
Corinne Recoque.
Cazaux ben, nous permettait d'avoir un accès assez rapide quand même à Toulouse, puisqu'à ce moment-là, on travaillait tous les deux sur Toulouse. Voilà. Puis c'est un village qui nous a bien plu. Au moment où on s'est installé, il y avait une école, bon, qu'il n'y a plus aujourd'hui, mais on a quand même le CLAE, le centre de loisirs. Voilà, il y avait aussi une épicerie, un restaurant, donc là c'est dommage. Hein. Les commerces, on n'en a plus aujourd'hui. Voilà.
Comment qualifieriez-vous votre village? On dit que c'est une cité dortoir.
Alors, je ne suis pas entièrement d'accord. Elle en prend un petit peu le profil aujourd'hui. Depuis peu d'ailleurs. Tous les nouveaux habitants sur Cazaux, en tout cas ceux qui se sont installés en même temps que nous, se sont assez investis sur le village, la vie du village. D'ailleurs, on les y retrouve aujourd'hui hein, dans les diverses associations qui tournent autour de Cazaux. Ce constat-là est beaucoup plus récent, c'est plutôt les toutes dernières habitations sur les deux, trois dernières années, oui. Là, oui. Ce sont des personnes que l'on voit beaucoup moins, qui, je pense, sont là plus pour des raisons pratiques et puis parce que ben, Cazaux, c'est toujours moins cher que de s'installer à l'Isle-Jourdain ou sur Toulouse.
Regard à présent sur les différents aménagements urbanistiques du village avec Jean-Claude Tournant.
Oui, donc l'aménagement du village a été réalisé en 2013 pour un coût substantiel, puisque il était avoisinant les 700 000 euros hors taxes. Donc nous sommes arrivés finalement à avoir un coût du village à 650 000 euros hors taxes, qui a été réalisé donc pour que nous ayons plus de problèmes pour le handicap, c'est-à-dire que un handicapé peut faire le tour du village sans gêne, sans problème. Les bâtiments publics, donc la mairie, la salle des fêtes sont donc aux normes, donc il arrive. Le seul problème qui nous reste, c'est encore l'église, où il va falloir faire une petite montée. On va essayer de voir si on peut faire une montée toute simple en bois, qu'on puisse mettre le jour, si jamais un jour il y a des handicapés qui peuvent venir. Et nous demanderons donc une autorisation. Autrement, tout le reste est fait pour que un handicapé puisse faire le tour du village sans encombre.
En aparté, vous me parliez du presbytère.
Dans le presbytère, qui est très grand, et puis il y a un terrain où il y a plus de 2000 mètres derrière, justement quand vous parlez des jeunes, nous voulons faire donc là, et où nous associerons la communauté commune, là, la haie et le CLSH, pour le sortir de la salle des fêtes, pour que la salle des fêtes reste disponible pour les gens de Cazaux, puisque nous la louons qu'aux gens de Cazaux. Là, le CLSH, on veut faire également des bureaux pour les associations, enfin, une grande salle de réunion à l'étage, et voir peut-être la mairie, puisque la mairie était là-bas dans le temps. Donc voilà, tout ça, c'est un projet, on est en train d'étudier un petit peu, et de faire, peut-être l'année 2015 sera l'année pour faire l'étude, pour savoir exactement, et après, en fonction des financements, eh bien, on verra de réaliser dans ce mandat, c'est le gros projet de ce mandat. Alors cette place a été rehaussée dans les années 1920, je crois, un truc comme ça. C'était le ils sortaient, ils avaient les gens, les habitants de Cazaux, c'était eux qui l'avaient fait, avaient mis des câbles avec des wagonnets, ils prenaient le sable à la save pour rehausser la place devant la mairie, qui a été rehaussée à peu près d'un mètre. Et l'église a été également rehaussée de plus d'un mètre, puisque elle, avant, dans le temps, il y avait deux marches pour descendre dans l'église, et maintenant il y a deux marches pour monter, pour entrer dans l'église. Donc pour vous dire, tout le sable qui a été ramené pour rehausser ce devant, pour éviter les inondations.
Parce que Cazaux était une ville longtemps inondée.
Ah ben ça, chaque fois que la save sortait, l'eau passait, devant, surtout pour les grandes inondations, l'eau passait devant l'église.
Alors allons voir cette église.
Voilà, on y va.
Alors est-ce que cette église a un nom ?
Ah non, je ne l'en connais pas. C'est une église, bon, et non, je ne sais pas quel est le nom, non, je ne crois pas.
Quelle est sa particularité ?
Ben, elle est très simple. Bon, vous voyez, bon, quand on a restauré l'église, bon, on a refait tous les plafonds, puisqu'il y avait des endroits où ça commençait presque à tomber. Et ensuite, vous voyez, bon, on a ressorti les briques des piliers. Bon, et encore, il reste encore du travail à faire, puisqu'il faudrait repeindre les murs. Mais bon, elle est toute simple, mais très, très, très accueillante et assez grande quand même pour le village de Cazaux.
Elle est encore ouverte au culte ?
Ah oui, oui, elle est ouverte, oui.
Tous les dimanches ?
Ah, oula ! Là, c'est beaucoup dire, non. Vous savez, vous connaissez maintenant aussi bien que moi, et bon, il n'y a pas trop de curés, donc les messes, il y en a une il y a huit jours, mais la prochaine ne sera, je sais pas. Bon, après, bon, bien sûr, il y a les enterrements, malheureusement.
Baptêmes, les baptêmes et les mariages ?
Les baptêmes, moins, mais les mariages peut-être aussi, oui, mais autrement, voilà, c'est tout. Mais elle est ouverte, elle est encore vivante. Ici, l'histoire de ça, vous voyez, cette partie-là, au milieu-là, qui est en retrait un peu, c'était là où les châtelains venaient le dimanche et mettaient leurs chevaux. D'ailleurs, nous, bon, ici, là, c'était fermé, on a fait la cuisine, les vestiges.
Les châtelains du château de Caumont ?
Oui. Quand ils venaient à la messe, ils mettaient les chevaux là. Et ça, vous voyez, c'était une attache qui servait à attacher les chevaux. On l'a gardée.
Et vous en avez fait donc une salle d'effet.
Ça avait été agrandi, bon... il y a très très longtemps, ça avait été agrandi. Et puis nous, on l'a agrandi d'une travée de plus, en gardant, puisque là, il y avait un mur. Donc, c'est à l'époque, c'est M. Carde qui nous a refait le bois, là, puisque là, il y avait un mur, il nous a refait comme c'était là, à l'origine.
Alors, le principal utilisateur, c'est une association.
Des parents qui ont monté l'association Les Bons Petits Loups pour avoir cette garderie, ce sont des parents.
Les Bons Petits Loups ont vu le jour il y a environ 5 ans.
Carole Blanc.
Lors de la fermeture de l'école de Cazaux-Savès. Donc avec l'école est partie aussi la garderie. Et donc il y avait un fort besoin de la population pour une garderie sur Cazaux, qui est quand même un village central pour la plupart des parents qui vont travailler sur Toulouse. Donc il y a une poignée de parents qui a monté cette association. Et puisque nous étions en association, le besoin aussi était présent pour un centre de loisirs pour les mercredis et les vacances scolaires. Donc l'association, dès le départ, a géré la garderie du matin du soir et puis les mercredis et les vacances scolaires.
Combien d'enfants accueillez-vous ?
Donc en moyenne, on accueille une quinzaine d'enfants par mercredi et pendant les vacances scolaires, c'est un peu plus, c'est entre 18 et 20, avec un pic de fréquentation qui peut aller jusqu'à 25-26 enfants les jours où on fait des sorties, puisque nous organisons au moins une sortie par semaine de vacances scolaires.
En termes de restauration, je parle du goûter. Vous avez une originalité au Bon Petit Loup.
Comme on est quand même inscrit dans le bien-être de l'enfant, et pour éviter de faire des différences entre les enfants, les Bons Petits Loups ont décidé d'offrir pour tous les mercredis et tous les jours de vacances des goûters bio, équilibrés, à chaque enfant qui fréquente le centre.
Direction à présent le château de Caumont, où le propriétaire des lieux, M. de Castelbajac, nous parle de son château
classé au patrimoine historique depuis 1947.
Il est bâti sur un ancien camp romain. Il y avait beaucoup de passages dans la région sous les bords de Save. Caso Save, c'était un lieu important à l'époque romaine. Et ça s'appelait Casino Magus. Comon était construit sur ce camp romain. Et il y a eu un château fort qui a été construit, qui avait été détruit par le prince noir. Le château s'est passé de main en main. Et un certain Pierre de Nogaret de la Valette, qui était issu d'une famille de Capitoul toulousain, s'est marié à Marguerite de l'Isle-Jourdain. Et par ce mariage, dans le mariage, il y avait les terres de Caumont. Et Pierre est parti faire les guerres d'Italie de François Ier. Il est rentré vainqueur, si vous voulez, de ces guerres d'Italie. Mais également, il est rentré surtout avec beaucoup de plans et d'idées nouvelles liées à la Renaissance italienne. C'était quelque chose de nouveau, sachant qu'évidemment, dans la région, nous n'avions que des châteaux forts, avec des escaliers à vis et des machicoulis, etc. Il a voulu faire un château Renaissance, chose complètement nouvelle à l'époque. Un château Renaissance, cela veut dire des grandes fenêtres. Nous avons à Caumont des grandes fenêtres à meneaux. Nous avons des grandes ouvertures, une galerie de réception, etc. Donc il s'agissait de pouvoir vivre convenablement et pouvoir avoir des espaces de réception et de plaisir. Mais cela dit, l'ennemi guettait toujours. Nous étions en plein pendant les guerres de religion. Donc il fallait quand même se protéger. Donc en fait, il y a un plan défensif. Donc c'est si vous voulez, Caumont est un lien entre le plan défensif à la Vauban. C'est-à-dire que par exemple, vous avez quatre tours qui sont en losange pour avoir une meilleure vision. Également des bouches à feu. Avec des gardes qui étaient là tout le temps, il y a une garnison, tout est très défensif, vous avez un mur de défense, des douves, etc. Mais à l'intérieur de la cour, qui était fermée avant par un pont-levis, à l'intérieur de la cour, là c'est une cour d'honneur magnifique qui permet de faire des grandes réceptions et d'avoir un château moderne. Autre particularité, il est construit en briques et pierres alternées. Alors c'est aussi tout à fait particulier de la région. La pierre rappelle la pierre du centre du Gers, de la Gascogne. C'est de la pierre d'Auch. Donc elle est blonde, très belle, quoique friable. Et la brique, bien sûr, c'est la brique toulousaine. En fait, Caumont est, je dirais, la quintessence de ce qu'on appelle aujourd'hui la Gascogne toulousaine. Et l'influence toulousaine, évidemment, est forte. L'architecte qui a construit Caumont était un grand architecte toulousain, Nicolas Bachelier. Et Caumont est vraiment très particulier dans toute la Gascogne et dans tout le sud-ouest. Il n'y a pas d'autre château identique, sauf à l'Aréole et à Cadillac. Mais en fait, l'Aréole et Cadillac ont été construits, sont des copies de Caumont, ont été construits sur les plans de Caumont. Lorsqu'Henri III a été assassiné, il a fallu trouver un nouveau roi. On est allé chercher Henri III de Navarre, c'est-à-dire le futur Henri IV, qui était protestant, donc ça posait un problème. Il fallait qu'il puisse se convertir au catholicisme pour monter sur le trône de France. Et de nombreuses tractations se sont déroulées à Caumont, car Caumont est à peu près sur la route entre Pau et Paris. Henri venait à Caumont souvent, discutait en secret, je dirais, ou en tout cas discrètement avec son ami. Il l'appelait son cousin. Jean-Louis de Nogaret, à la suite de quoi Henri a dit Paris vaut bien une messe. Il est monté à Paris et il est devenu le roi que l'on connaît. C'est donc aussi un rôle pour Caumont de conciliation. Synthèse sont les caractéristiques de Caumont, à la fois par son plan architectural, ses matériaux et aussi par son histoire. Les habitants de Caumont ont toujours cherché la concorde, je pense. Et le château a été transmis parfois de manière assez acrobatique, parce qu'il n'y avait pas forcément de descendant direct. Il a fallu trouver un cousin ou un deuxième mariage, etc. Mais on a toujours voulu garder une transition familiale.
Est-ce que ce château a souffert durant la Révolution française ?
Oui, beaucoup, beaucoup, il a beaucoup souffert. Assez tôt d'ailleurs, pendant la Révolution, il y a eu une occupation de Caumont qui a duré 2 ou 3 ans. Enfin, tous les archives ont disparu. Des parquets ont été brûlés, enfin des meubles également. Le village aussi a beaucoup souffert. Il y avait un couvent, le duc d'Épernon avait construit un couvent de minimes magnifique dans lequel il avait fait enterrer ses parents. Et il avait donné à ses parents des gisants de marbre. Les gisants de marbre étaient réservés normalement aux rois et princes du sang. Et à la Révolution, ce couvent a été entièrement rasé, détruit. Les tombes des parents ont été profanées et les gisants ont été jetés dans la Save. Et au tout début du 19e siècle, on les a retrouvés, donc on a mis les gisants dans la chapelle, la nouvelle chapelle qui se trouve dans le château. Évidemment, ça a laissé des traces, bien entendu, et le village n'a plus son magnifique couvent, donc c'est dommage. Moi, je ne suis que le légataire de ce château que je vais essayer de transmettre. C'est avant tout un patrimoine régional et j'estime que chacun peut se revendiquer un petit peu de l'histoire de Caumont.
Comment voyez-vous l'avenir ?
Mais bon, je pense que l'avenir, nous sommes appelés quand même, compte tenu de la proximité de la 634 et de la déviation de l'île Jourdain, à grandir encore. Bon, il faut rester dans une partie quand même assez raisonnable, parce qu'on ne veut pas non plus que ça devienne un grand village dortoir. Il faut quand même que les gens... Bon, mais c'est vrai qu'il y a de fortes chances que... qu'on continue à se développer. Eh bien, vous voyez, on revient maintenant aux années 1000... avant les années 1900, où il y avait sur Cazaux plus de 300 habitants, et on y revient maintenant. Et en 2001, quand j'ai été élu, on n'était plus que 115 habitants. Vous voyez la progression qu'il y a eu en peu de temps. Et donc, je pense qu'on est appelé à avoir encore un développement, compte tenu de la proximité de Toulouse. Puisque maintenant on est à Toulouse en 25 minutes.
C'était dans la série Nos Villages, Cazaux Savès, une émission pour la communauté de communes du Savès 32, produite et réalisée par Nicolas Héry, avec, par ordre d'apparition, Jean-Claude Tournant, Dominique Leclerc, Pascal Huc, Nathalie Saint-Cernin, Thierry Baron, Corinne Recoq, Carole Blanc et Monsieur de Castelbajac. Merci au maire Jean-Claude Tournant et à son conseil municipal.